je vais parler d'autre chose, puis je vais pas assurer la promesse faite dans le titre de donner aux organisateurs, parce que en 20 minutes, je peux pas détailler mon enquête sur le PageRank, qui par ailleurs va sortir dans un numéro de réseau qui s'appelle Politique des algorithmes, qui est sous presse. Et puis c'est, je crois, pas tout à fait conforme à l'esprit qui était donné à cette journée, qu'en fait d'avoir une sorte de regard un peu global, réflexif sur nos activités de chercheurs, de praticiens du web, d'articulation interdisciplinaire. Donc je vais essayer de faire quelque chose autour de la question des algorithmes du web et des métriques du web, qui me semble être un sujet essentiel, mais de façon beaucoup plus réflexive, sous forme de proposition un petit peu générale. Sur un sujet qui me semble très important, parce que alors, je maîtrise très mal, à la différence de Marin et Pierre qui m'ont expliqué déjà Digital Humanities, moi je me sens inscrit depuis longtemps dans un paradigme interdisciplinaire qui s'appelle plutôt Web Science ou Network Science, qui est l'endroit précis, mais d'une seule articulation. En fait, on manque des interdisciplinarités entre informaticiens, et notamment les informaticiens de la théorie des graphes, hein, pour des réseaux, et puis sociologues, mais il y a aussi maintenant une présence forte de linguistes et de psychologues dans ces communautés internationales. Et parmi les sujets importants des travaux qui sont menés dans ces communautés des sciences du web, un des sujets évidemment qui est central, c'est celui du nouveau traitement des données, de l'abondance, des données, des nouveaux formats de traitement des données, des outils statistiques et des outils de représentation dont on dispose pour les traiter, et qui fait l'objet et les délices de toutes ces réunions et de ces débats où finalement les sociologues sont formés aux statistiques et au traitement des grandes bases de données de façon intense pour essayer de suivre un peu la nature des débats. Et parmi ces débats, il y en a un qui me semble important, qui me semble un peu décisif dans l'idée d'identifier des thématiques de recherche et de recherche qui permettraient d'articuler des paradigmes, des disciplines, des approches différentes, qui est celui non pas des données, mais des métriques que l'on applique sur ces données, des formes de classements qui sont proposées, et notamment des classements qui sont produits par les services du web. J'entends que des calculs mise en forme derrière des artefacts de toutes sortes, des listes, des classements, des notes, des catalogues, des tags, des compteurs, ne cessent de se multiplier sur le web, que ce sont des artefacts qui guident nos navigations sur Internet. Et quand on est sociologue des usagers de l'Internet, on est obligé de se rendre compte que, en fait, nos navigations sont constamment encadrées, guidées, orientées, sollicitées, suggérées par ces outils informationnels. Moi, je cite ce chiffre improbable, parce que invérifiable, évidemment, que donne Guillaume Futiou, qui est de dire que 90% des navigations se font sur 0,06% du contenu du web. Bon, on ne sait pas mesurer la taille du web, mais en gros, ça nous dit quelque chose, en fait, de la part extrêmement fine, en fait, des informations du web que nous consultons, et cette part, elle nous est désignée par les algorithmes et par les métriques du web. Et je crois que les sciences sociales et les sciences humaines ont un intérêt majeur à ne pas laisser ces algorithmes et la conception de ces calculs simplement aux informaticiens, mais à les observer, à les étudier, à en faire, comme nous l'a appris toute la tradition de sociologie des sciences et des techniques, à en faire une anthropologie, à essayer de comprendre à la fois quels sont les projets qui sont enfermés à l'intérieur des calculs et des métriques du web, quelles sont les ambitions que les concepteurs donnent aux outils et aux artefacts qu'ils construisent, et puis quelles sont la manière dont nous nous les approprions, dont nous les comprenons ou nous ne les comprenons pas, et quelles sont les manières dont on peut les utiliser. Alors, je dis ça avec un tout petit peu de force, parce que j'ai le sentiment que dans beaucoup de travaux d'analyse de sociologie ou de discussion de philosophie, etc., sur le web, on a un rapport qui reste un peu un rapport à l'ancienne vis-à-vis des calculs et des métriques, c'est-à-dire que on n'entre pas dedans, hein, et beaucoup finalement de cet apport de la sociologie des sciences et des techniques est quand même encore mal fait, me semble-t-il, dans les sciences du web. Le calcul, c'est la rationalisation, c'est le formatage, c'est la nouvelle discipline, et donc on fait des réductions immédiates vers des formes critiques très nécessaires, hein, je n'en doute pas, sur l'idée que toute métrique est une forme de rationalisation, ou bien et notamment quand on parle, comme je vais essayer de le faire, de l'algorithme de Google, vers les intérêts commerciaux des concepteurs de ces plateformes et de ces métriques, qui est intérêts commerciaux qui sont absolument évidents, mais souvent à vouloir remettre tout de suite le retour critique sur les intérêts stratégiques, commerciaux des acteurs du web, on oublie de les regarder, de les étudier, de voir quelles sont leurs visions et leurs projets, et on oublie sans doute de faire une partie du travail d'anthropologie des techniques qui me semblerait nécessaire. Alors, j'avais d'autres choses que je voulais souligner, mais voulant aller vite, je vais entrer dans ma question, qui est voilà, d'essayer de voir comment on peut essayer d'ouvrir un tout petit peu ce paysage. Et ce que je propose de faire, c'est d'abord de dire que, bon, on peut très simplement regarder l'histoire du web en se disant que... Il y a eu des outils statistiques ou des métriques qui ont joué un rôle important dans la construction des formats d'organisation des classements de l'information sur le web, et que ceux qui les construisent ils voient des principes, en tout cas un principe d'ordre qui est derrière. Et pour raconter l'histoire du web en 5 minutes avec 5 principes, on pourrait dire qu'il y a au moins 5 grands ingrédients qui sont mis en place. Le web a d'abord été classé à la main, hein, rappelez, enfin pour les anciens, souvenez-vous des je sais pas comment les appeler, des documentalistes de Yahoo, hein, qui classaient dans l'annuaire de Yahoo à la main les sites du web qui étaient référés comme étant les meilleurs sites les uns que les autres. Ils avaient finalement un format de taxinomie à la D-Way, d'un monde de la documentation. Ils classaient le meilleur du web et c'était finalement un outil de navigation qui a donné sa force à Yahoo. Mais évidemment, à ce classement à la main est très vite apparu impossible avec l'abondance des informations, et c'est les algorithmes qui vont prendre leur essor, et un algorithme particulier sur lequel je vais revenir, qui est le PageRank, dont le principe central est celui de l'autorité. L'autorité telle que, finalement, on connaît assez bien dans le modèle scientifique, c'est d'ailleurs directement repris de Garfield et du Science Citation Index. Une information a plus de valeur qu'une autre, non pas parce qu'on clique dessus, l'audience n'a rien à voir dans le classement du PageRank, mais parce qu'il a reçu un nombre important de liens de sites qui, eux-mêmes, ont reçu un nombre important de liens. Donc c'est une métrique méritocratique de diffusion de la reconnaissance que mesure le PageRank, je vais y revenir. Et puis une troisième métrique s'est imposée dès les origines du web aussi, qui est de mesurer là l'audience n'étant pas l'autorité, avec le nombre de clics reçus par les différents sites du web. Donc d'une certaine manière, éditorialisation, autorité, audience, c'est les trois mesures un peu classiques. L'autorité étant la plus originale qu'amène le web au monde de la mesure des médias qui ont figuré les trois premiers principes d'organisation des métriques du web. Et puis, je crois, et c'est un point de tension auquel je voudrais essayer d'être attentif, ou en tout cas de vous convaincre qu'on devrait y être attentif, c'est qu'avec le web social, avec la démocratisation des usages du web, avec tous les nouveaux réseaux sociaux, il y a deux nouveaux principes qui viennent bousculer, je crois, ces trois principes initiaux. C'est celui de l'affinité, l'information qui va m'être donnée à voir est celle qui a été la plus vue, lue ou consultée par ceux que j'ai moi-même choisi en raison de mes affinités, amis sur Facebook, followers sur Twitter. Et donc on est dans un tout autre format de définition de quelle est la priorité ou quel est le bon mode de classement de l'information, qui n'est plus l'autorité, qui n'est plus l'audience et qui n'est plus l'éditorialisation, mais qui est un principe d'affinité. En organisant mon écosystème d'amis, etc., j'organise aussi le périmètre des sources qui vont définir quelle est l'information qui compte pour moi. Et puis, il y a un autre principe qui arrive avec Twitter, c'est celui de la vitesse, de la fraîcheur, du temps réel. Temps réel qui bouscule en grande partie le web des pionniers. Alors, ce que je voudrais essayer de dire, c'est que de ces 5 principes, il me semble qu'on peut voir comment tous les algorithmes, métriques, classements, tags, folksonomies, outils de suggestion sont des composés, en fait, de telle ou telle de ces dimensions de la valorisation des informations qu'on cherche à mettre en avant. Mais ce qui me semble central, c'est que, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a une tension aujourd'hui très forte et qui est, je crois, un objet passionnant pour les sciences sociales, autour du monde qu'avait dessiné Google et du monde qu'avait dessiné l'algorithme de Google. Et je ne parle ici que de l'algorithme de Google, qui est le PageRank, parce que le PageRank est une machine morale d'un type particulier qui a défini une forme de configuration et d'une certaine manière une manière de voir les calculs sur le web qui lui est sans doute propre et qui a des propriétés que je voudrais souligner. Le premier principe, je l'ai dit, c'est que ce que mesure le PageRank, le PageRank dans sa version pure, hein, vous doutez bien qu'évidemment le Google Score n'est pas le PageRank, est beaucoup plus complexe et intègre beaucoup d'autres variables. C'est l'idée que le meilleur classement de l'information à donner aux internautes, c'est de respecter un principe d'autorité. Le principe d'autorité a été repris directement et par Kleinberg et par Brin et Page au Science Citation Index de Eugène Garfield, et c'est véritablement cette idée que contre les théories lexicales ou sémantiques de l'époque des moteurs de recherche, il fallait en fait organiser une sorte de classement de la reconnaissance, que les pages web se portaient les unes envers les autres et la mesurer pour produire l'information la plus pertinente. À ce principe, Google a très vite ajouté, c'est sans doute ce qui a fait sa force et en même temps sa très subtile ruse de la raison commerciale, mais je n'entre pas dans ce débat, une séparation très forte entre la mesure de l'éditorial, et c'est ce que le PageRank mesure dans la partie de votre page des moteurs de recherche qu'on appelle leur classement organique, la séparer de façon forte, d'ailleurs comme sur le modèle de l'éditorial de la presse, de séparer la partie éditoriale de la partie publicitaire. Google va développer un autre algorithme, c'est un autre monde, c'est celui des AdWords, c'est celui de la publicité, c'est celui qui lui rapporte énormément d'argent, mais ce monde est absolument séparé, nous dit Google, mais je crois qu'il faut les croire sur cette question, absolument séparé du monde des classements naturels qu'essaye de faire le PageRank. Parce que qu'est-ce que met en place le PageRank ? C'est un modèle qu'on connaît bien, d'une certaine manière, que Lauren Daston et Peter Galison ont magnifiquement étudié dans leur histoire de l'objectivité sous le nom d'objectivité mécanique. C'est d'imaginer un monde dans lequel un outil calculatoire va de façon transparente, ou plus ou moins transparente, refléter la nature des échanges qu'ont entre eux les internautes, sans que n'y intervienne jamais, nous dit-on, la main des humains. Alors, fiction, on le sait, mais fiction nécessaire au fonctionnement des principes qui font à la fois la pertinence et l'autorité du PageRank sur les classements du web. Le premier, c'est de placer le calculateur, qu'est l'algorithme, dans une position d'extériorité par rapport aux actions que mènent les internautes, ce qui était d'ailleurs aussi le principe de Garfield sur le Science Citation Index. Le PageRank ne prend pas position à l'intérieur des débats qu'ont entre eux les internautes pour se désigner quels sont les bons et les mauvais sites. Le PageRank voudrait être d'ailleurs absolument absent de l'intention des internautes. Il voudrait disparaître et ne faire que mesurer les échanges de liens que se font les internautes. Il défend une conception absolument procédurale des mesures de classement sur le web. Il ne fait que compter des liens. Il ne cherche pas à savoir si ces liens disent que ce site est bon ou que ce site est mauvais, que ce site est intéressant ou qu'il ne porte aucun intérêt. Il compte l'enveloppe qu'est le lien hypertexte entre les différents sites. Il prétend la neutralité. On ne touche pas, c'est un des grands points principe. Alors un point de principe qui est évidemment discuté, je suis sûr que dans la salle il y aura des gens pour me dire que évidemment c'est complètement faux, ce qui est assez vrai, qu'on ne touche pas à la main l'algorithme du web, mais vous savez que dans beaucoup de polémiques, finalement Google est obligé de toucher à la main l'algorithme parce que nous avons un droit européen sur la liberté d'expression qui est différent du droit américain, parce que nous avons un droit sur la propriété intellectuelle qui fait que Google est obligé de signaler les contenus piratés qui apparaîtraient trop haut dans ses classements, etc. etc. Donc d'une certaine manière, le fait que Google de plus en plus vient à la main raffiner, toucher les résultats de son algorithme sont aussi liés aux contraintes que nous, humains, lui imposons. Et puis, c'est aussi un algorithme qui s'appuie sur un ensemble de théorisations statistiques, en fait, qui sont extrêmement profondes et extrêmement passionnantes pour les sciences sociales, qui remontent au théorème du jury de Condorcet, qui passe par le miracle de l'agrégation, par un théorème dit le théorème de la diversité de Scott Page, Scott Page, pas Larry Page, et toute une série de théories statistiques qui font que, d'une certaine manière, il y a une pertinence à sa manière, une approximation de la pertinence des résultats du PageRank qui s'appuie sur toute une sorte de tradition statistique qu'il est très intéressant de développer. Et puis le dernier point qui me semble important dans cette petite, très très rapide listage des propriétés de la forme PageRank, c'est que du point de vue de Google, et c'est assez fascinant de voir ça, les algorithmes sont bêtes. Et cette chose, Eric Schmidt ne cesse de le répéter, hein, à ceux qui voudraient faire les malins avec les algorithmes, ou à ceux qui voudraient que l'algorithme soit malin comme un humain, en fait, qu'il ait une capacité de jugement. Tous les théoriciens du web sémantique sont dans l'idée que finalement, il faut construire un outil artificiel qui reproduise, ou qui en tout cas soit le plus proche possible du jugement humain. La fonction centrale, vue par Google, des nouveaux algorithmes, et je crois que de plus en plus avec les algorithmes d'apprentissage, c'est que les algorithmes doivent leur force à leur capacité de ne pas être intelligents et d'agir le plus bêtement possible dans le calcul qu'ils sont obligés d'apporter. Alors je sens que je vais très vite pour dire tout ça, mais ce que je voulais souligner, c'est que cette vision du web et de la manière dont le PageRank est devenu l'algorithme central, en tout cas du web, elle est très liée au web des pionniers. Elle partage beaucoup d'idéalisations, notamment celle qui est évoquée tout à l'heure par Christian Jacob sur le lien hypertexte, hein, c'est-à-dire cette idée que les textes parlent entre eux à travers des liens en effaçant la présence de leur énonciateur, que ce sont les textes en fait qui envoient de la force vers d'autres textes et que l'algorithme essaye de les mesurer. Et une des choses qui était centrale dans la vision du web que produit Google, autre vision du web centrale et proche des pionniers que produit Google, c'est cette idée qu'il y a une division forte entre le web marchand et le web non marchand. Et le web marchand est calculateur, il est stratège, il veut être vu. Et pour être vu, il va payer. Et il va payer dans les AdWords. Mais le web non marchand, lui, n'a pas à calculer sa visibilité, il doit la mériter. Il doit la mériter selon une fonction du mérite qui est que les liens nous arrivent, mais que ces liens, on ne les produit pas soi-même, on ne les calcule pas. Ce qui, évidemment, est une vision binaire, hein, entre un web du don et un web du calcul, qui n'est pas la réalité du travail des internautes. Et d'une certaine manière, ce qui met en crise ce modèle du PageRank, c'est d'abord que les internautes sont stratèges. Qu'ils soient des entreprises qui veuillent payer leur visibilité ou l'énorme marché du référencement qui leur propose toute une série de liens plus ou moins payer, acheter, conçu, susciter ou bien totalement artificiel dans des fermes de liens et de contenu pour obtenir de la visibilité. Premier effet donc de mise en crise du modèle du PageRank, le fait que les internautes calculent leur visibilité, agissent en fonction de Google, alors en fonction du PageRank, alors même que Google rêve que les internautes oublie totalement la présence du méta-coordinateur qu'est le calculateur du PageRank. Deuxième mise en crise du PageRank, c'est le fait que, de toute façon, du fait même des propriétés des structures en réseau, ça a été énormément travaillé par les informaticiens, et c'est là que le travail des sciences humaines et sciences sociales avec les informaticiens est passionnant, fait qu'il y a des inégalités de structures qui sont absolument centrales dans les modes d'organisation en réseau, effet Mathieu, effet des appareillements sélectifs, etc., qui fait que la mesure, qui devrait être une mesure d'autorité, est très souvent en fait une mesure qui moyennise sur l'audience et qui accorde au nœud dominant un nombre de liens surnuméraires qui va écraser le classement plus fin que propose le principe d'autorité initialement incorporé dans le PageRank. Et puis, troisième facteur qui met en crise le PageRank, et je vais finir avec ça, c'est qu'on assiste aujourd'hui à véritablement dans les pratiques des internautes et puis dans le développement des nouveaux services du web à un véritable changement de paradigme dans la relation aux métriques de classement sur le web, qu'elles nous viennent en grande partie du web social et du fait qu'il pousse ces deux autres principes que j'évoquais tout à l'heure, que sont l'affinité et la vitesse, et que ça organise des modes de structuration de l'information, d'organisation de la pertinence des informations, qui est sensiblement différent du principe traditionnel, du principe, alors je vais dire maintenant traditionnel, d'autorité que cherchait à défendre le PageRank. Les métriques d'affinité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est classer les informations depuis l'écosystème relationnel des internautes, donc c'est de considérer que c'est à travers les choix de sources, appelées amis, followers, que j'ai choisi, que se définit la relation aux informations qui vont ensuite être classées par les différentes métriques du web social. C'est ensuite rompre avec l'idée sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure d'une extériorité du calcul par rapport aux activités des internautes. Le calcul est à l'intérieur de l'activité. D'une certaine manière, on peut dire que le web social ne fait que rendre réaliste ce qu'est la pratique stratégique et calculatrice des internautes et des webmestres. C'est qu'on a le droit d'agir, ce qu'on n'a normalement pas le droit de faire au regard de Google vis-à-vis du PageRank. On a le droit d'agir sur sa réputation. On a le droit de la produire. On a le droit de susciter son commentaire. On a le droit de construire sa e-réputation dans les réseaux. La mise en scène fait partie du jeu de construction qu'ont entre eux les acteurs pour agir sur les métriques qui vont ensuite répertorier leur influence sur le web. Et donc en affaiblissant cette séparation entre le calcul et le non-calcul, en rendant le calcul présent dans les activités des internautes, on modifie radicalement le type de paradigme que le PageRank cherchait à installer sur le web. Ensuite, on affaiblit considérablement la séparation entre l'éditorial et la publicité. Le meilleur exemple étant sans doute, alors je ne vais pas entrer dans des détails techniques, le EdgeRank. Vous savez que le EdgeRank est l'algorithme de... Alors, ça n'a rien à voir avec la construction sublime, enfin je mets sublime entre guillemets, mais je crois qu'elle est sublime du PageRank, proposé par Facebook de son algorithme qui vous permet de classer les flux d'informations que vous voyez dans votre fil d'actualité en fonction de l'activité qu'ont eu les amis auxquels vous vous abonnez. Or, ce EdgeRank, dans son principe... devrait vous rendre plus visible les informations avec des gens avec lesquels vous interagissez le plus, Mais ce qui est le contrat implicite qui est vendu aux internautes, dans la réalité, Facebook vend aux marques avec lesquelles les internautes généralement n'interagissent pas, même s'ils ont dit une fois qu'ils aimaient Coca-Cola ou Nutella, ils vendent de la visibilité à l'intérieur du flux des amis des internautes. On appelle ça vendre du reach. C'est le modèle économique actuel de Facebook. Donc on voit bien que cette idée, que cette séparation tendue, qui était pour les Googlers une muraille de Chine, est tombée dans les formes de calcul qui sont proposées aujourd'hui sur le web social. Donc il n'y a pas d'extériorité des classements, on peut agir stratégiquement sur eux et il n'y a pas de séparation entre la publicité et l'éditorial. Alors les questions au final auxquelles je voudrais m'adresser, c'est finalement, est-ce que les sciences sociales n'ont pas un rôle critique à jouer à la fois dans la compréhension de ces algorithmes et en même temps dans une sorte de travail aussi vis-à-vis des internautes sur quelles relations les internautes doivent-ils avoir avec ces nouvelles métriques et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors à vrai dire, on manque beaucoup d'enquêtes. Moi je pense que ce serait passionnant de savoir exactement quelles sont la manière dont les internautes comprennent, interprètent les classements qui leur sont faits. Les comprennent-ils et les interprètent-ils? Y a-t-il quelque chose du principe que j'ai essayé de décrire très rapidement dans les différentes métriques du classement dont ils entendent qu'il y a une signification et qu'il y a une sorte de contrat tacite qui est passé entre l'internaute et le service sur lequel il navigue? Et si oui, ce que je crois plutôt, avec le fait que nous commettons énormément d'erreurs d'interprétation sur ce que font les algorithmes, y a-t-il des désajustements entre les intentions promises par l'algorithme et la réalité de leur fonctionnement? Amazon, dont le principe du filtre algorithme dit de filtrage collaboratif est assez simple à comprendre et à faire partager, ce que d'ailleurs essayent de faire plutôt des plateformes comme Amazon. Ceux qui ont acheté le même livre que vous ont aussi acheté tel ou tel livre. Filtrage collaboratif, item personne, on arrive à proposer une liste de livres. Mais n'est-il pas soupçonnable qu'il y ait des désajustements entre l'intention du modèle du filtrage collaboratif et la réalité des pratiques d'Amazon, qui par exemple a un stock de livres à écouler et valorise ce stock de livres à l'intérieur de classements de livres qui sont normalement calculés en fonction du principe du filtrage collaboratif? Est-ce que incessamment nous ne sommes pas soumis à des désalignements entre ce que l'algorithme peut être, ce que nous pouvons prêter à l'algorithme comme étant son intention ou son principe, et la réalité des pratiques menées par ces différentes plateformes? C'est, je crois, un des enjeux importants de la compréhension, à la fois de la compréhension des pratiques des internautes et en même temps de la critique et de la fourniture de ressources critiques aux internautes pour veiller sur la qualité des promesses que leur font les algorithmes. Et puis, dernier élément, et je finis vraiment avec ça, c'est que peut-être que je vous ai aussi raconté là, et vraiment beaucoup trop vite, un monde qui n'existe plus dans les calculs que font les algorithmes, avec un grand changement de paradigme qui est le passage d'un modèle qu'on pourrait dire de statistiques encore classiques, où il y a une cause qui produit des effets, et ces effets, on peut en dégager des principes, et ce principe, on peut le partager comme étant des valeurs à la fois défendues par les concepteurs, mais en même temps comprises par les internautes. Changement de paradigme qui est lié à la diffusion, à la généralisation des techniques dites de machine learning, modèle d'apprentissage, dans lequel et qui est un modèle qui n'est plus un modèle cause-effet, mais un modèle moyen-fin. Je donne à ma base de données un objectif, et elle va apprendre de façon supervisée en fonction de cet objectif pour recalculer constamment le poids des différentes variables qui participent au calcul qui m'est proposé. Alors, transformation qui fait grand bruit dans les laboratoires d'informatique, de statistiques et de calcul, qui est au cœur des nouveaux principes. Et tout ce que je vous ai dit sur le PageRank ne vaut qu'à l'intérieur d'un Google Score qui fonctionne avec du machine learning, c'est-à-dire qu'il apprend vos comportements, il va personnaliser une partie de ses résultats, il va pondérer lui-même les différentes variables qui entrent en compte dans l'index des résultats qu'il propose en fonction de vos comportements et du comportement des autres internautes qui vous ressemblent le plus. Et donc on entre dans un monde dans lequel les nouveaux modèles dits prédictifs de machine learning recomposent constamment les variables qui participent aux calculs qui nous sont donnés et du coup se rendent relativement ininterprétables. Et leur nouvelle justification n'est plus de dire « je réponds bien à un principe d'éditorialisation, d'autorité, d'audience, d'affinité ou de vitesse, mais je réponds à la meilleure chose pour vous ». Et c'est l'idée d'une efficacité constante et constamment mesurée par le fait que vous avez cliqué et donc en cliquant, vous avez dit au système que le résultat qui vous est proposé était pertinent, qui suffit au nouveau modèle statistique qui se développe en machine learning pour rendre leur système efficace ou pour que les concepteurs les considèrent comme efficaces. Alors là, je crois qu'il y a un travail immense pour les travaux de sciences sociales, des métriques et des calculs, que, et je voudrais juste finir avec ça, c'est d'une certaine manière tout ce que Alain Desrosières nous avait enseigné sur le rôle décisif des statistiques dans la construction des mondes sociaux, dans le fait que ces statistiques ne tenaient que quand elles s'appuyaient sur des conventions sociales partagées, qu'elles les faisaient tenir, et que d'une certaine manière, nous, comme internautes, nous faisons tenir le web à travers nos représentations des métriques et des calculs qui nous sont donnés, et qu'il y a à l'interface de ces représentations des calculs et de la fabrication de ces calculs du travail pour les digital humanities. Merci.
Merci beaucoup. On ne cliquera probablement plus sur Google de la même manière après votre présentation. Oui.
Oui, merci de cette présentation. J'avais plus une question sur la dimension anthropologique de ton travail, en fait. En fait, tout bêtement, comment est-ce que tu appliques la méthode de l'anthropologie à ton objet d'étude, hein, qui est le PageRank ? Est-ce que, comment tu mets en place ton travail ? Est-ce que tu interviews des acteurs ? Est-ce que tu es allé ou est-ce que tu prévois d'aller à Mountain View ? Je ne sais pas. Est-ce que, également aussi, vraiment, en fonction des spécificité de l'objet PageRank, hein, qui est, c'est un peu comme le coca, hein, on ne connaît pas forcément tous les éléments de la recette, donc comment est-ce que tu gères cette obscurité, quelles sont les ressources de l'anthropologie en fonction de ça, quoi.
Alors, oui, voilà, c'est, j'entends anthropologie, hein, j'emploie ça un petit peu à la... Hein, Mais c'est l'idée, parce que je pense qu'il y a un rêve du PageRank. C'est-à-dire que le PageRank a une représentation du web, une représentation globale, il a une politique du web, hein, donc c'est vraiment dans ce sens-là que je déploie. Mes techniques d'enquête, en revanche, c'est d'emblée... Alors, c'est passionnant d'enquêter sur, effectivement, un code qui est secret ou qui est prétendu secret. Mais bon, il y a deux brevets. Hein, et puis, il y a toute une série d'autres brevets qu'on peut lire très facilement, etc. Donc, le secret, c'est la cuisine interne de comment on a composé les choses. En fait, la vérité des algorithmes et de tous les algorithmes du web, c'est pas tellement de reconnaître leurs principes, ce qui est complètement public et parfaitement étudié, etc. Mais c'est de savoir comment dans le traitement secondaire de l'index et des différentes machineries de Google, ça se passe. Ça, j'ai délibérément considéré que ça dépassait mes capacités que d'aller voir Google pour leur demander. Je sais d'abord que j'ai à peu près aucune chance, même pas, certainement aucune chance d'avoir des réponses. Et puis, je ne suis pas sûr de les comprendre, parce qu'il y a aussi après des limites de maîtrise des outils mathématiques, hein, qui sont derrière. En revanche, il y a une technique vraiment passionnante, hein, pour travailler sur le PageRank, c'est que le PageRank, il obsède mais des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui sont les webmestres et le marché du search engine optimization, du référencement, qui ne cesse de le décoder, de le rétro-ingénierer, de le tester, de le pousser dans un sens, dans un autre, etc. Et donc, ils produisent un nombre de discours très importants qui suffit de... Et une sorte de relation de amour-haine absolument délirante vis-à-vis du PageRank, qui pour eux s'appelle Matt Cutts, hein, puisque c'est la personne chez Google qui discute avec eux. Et donc, en fait, entre Matt Cutts et puis tous les discours du webmestre, on a un matériel d'enquête qui est déjà beaucoup trop volumineux pour le genre d'analyse que je fais. Donc, c'est comme ça que je procède.
Donc, il y a une dernière question, et puis, puisqu'on est un petit peu en retard...
Oui, je regrette que ce type d'approche soit si peu présent dans l'éducation, et ça me permet juste deux remarques. La première, qui conforte le point de vue que vous avez publié récemment dans Libération, c'est l'écart, pour avoir suivi cette affaire depuis une douzaine d'années, l'écart phénoménal entre les discours qui sont tenus sur le numérique et ses usages dans la société et les pratiques qui, la plupart du temps, n'ont rien à voir. Et je pense, comme ça, juste pour prendre un exemple, vous pouvez trouver, pour un New Deal du numérique, Et ce truc-là, c'est quelqu'un qui bosse pour l'Institut Montaigne. Alors quand on sait ce que Montaigne pense du New Deal, ça fait quand même sourire un peu. Et l'idée, c'est que bien évidemment, avec le numérique, on va raser gratis et que tout sera génial. Alors que les enjeux sur l'éducation sont bien, bien plus importants. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je suis très, très sceptique sur les relations avec les informaticiens. Je pourrais citer plusieurs exemples, mais juste un petit détail. La dernière fois, j'ai eu besoin d'intervenir à la Sorbonne, et la liaison Wi-Fi, je l'ai fait parce que de fait c'était le code du chercheur. Le seul ennui, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, ça marchait plus. Et quand je suis dans un café ordinaire, lambda, je tape juste un code et j'ai ma liaison Wi-Fi parfaite. Or, dans la liaison Wi-Fi, le but, c'est pas de perturber la base de données de l'université, c'est d'avoir un accès simple vers des choses extérieures sans payer forcément des fortunes à Microsoft, enfin pas Microsoft, mais à France Télécom et à quelques autres. Et juste un dernier mot, c'est vrai que pour suivre en veille documentaire en histoire, pour la revue Historien Géographe, moi, ce qui m'impressionne, c'est le volume de liens brisés. Et sur ce terrain-là, combien de gens qui tiennent un site oublient simplement que s'ils changent une lettre dans leur adresse, le truc risque d'être perdu. Et de fait, je continue, moi, à faire de la pub pour Internet Archive, qui a peut-être ses défauts, mais qui permet assurément de retrouver un article qui était intéressant en 2006. Je pense par exemple à Roy Rosenweg sur son regard concernant Wikipédia. Et dans ce cas-là, vous voyez, on est obligé de chercher des astuces pour contourner des choses qui ne sont pas forcément prises en compte. Voilà, ce n'était pas une question, c'était juste deux remarques.
Bonjour à tous. Il a été question dans les interventions, et surtout, enfin, il y a deux interventions de projets à coût très élevé, voire relativement élevé, mobilisant un nombre important de partenaires d'infrastructures lourdes. Je vous présente en quelque sorte le contre-projet, le micro-projet à coût plus ou moins zéro, en dehors des heures de sommeil d'une doctorante. Et qui, voilà, mais qui a un impact non négligeable à l'échelle de la communauté scientifique concernée et je pense nous permet de penser les différentes échelles par rapport aux institutions et par rapport aux pratiques individuelles des chercheurs. Donc, je vous parle d'une bibliographie internationale collaborative que j'ai mis en place pour une petite société savante. On est dans les 350 membres. Alors, sur la Première Guerre mondiale, alors, les grands noms de la Première Guerre mondiale, ils sont à peu près tous. Donc, c'est une communauté très vivante, avec une mailing list notamment qui fait vivre la communauté. Et toute cette bibliographie est en quelque sorte née de la réflexion autour de l'approche du centenaire. On s'est dit, mais quel est notre rôle à l'approche du centenaire? On ne va pas se lancer dans un grand projet de numérisation d'archives. Il y a d'autres endroits où ça se fait. Il faut des moyens importants. La société a un tout petit budget roulant du part des membres qui payent, mais ça suffit pour avoir un site web, mais pas beaucoup plus. Quelle peut être notre place? Et notre place, en fait, c'est un apport scientifique, notamment par la veille bibliographique et du fait que les membres de la société sont répartis dans beaucoup de pays. Donc on s'est dit, bon, ce serait bien d'avoir ça, et donc on a réfléchi sur ces questions de bibliographie. Alors bon, évidemment, on connaissait les différentes bibliographies papier existantes. Il y en a sur la Première Guerre mondiale. Rien d'international, ne serait-ce que parce que c'est un champ tellement vivant et tellement prolifique que c'est difficile à surveiller et en papier, ça fait un moment qu'il n'y a plus rien qui est sorti. Donc du coup, on a regardé les différentes solutions qui existaient en ligne. Et quand on regarde, il y a différents types de bibliographies qui sont mis à disposition par des individus, par des centres. Ça peut aller de la bibliographie, le document Word qui est disponible à travers la page personnelle d'un chercheur. Ça peut être un site web statique HTML que quelqu'un met à jour manuellement. Ça peut être une base de données comme c'est Criminicorpus, qu'on ne voit pas bien, mais en bas à gauche. Une base de données propre de données bibliographiques. Et ça peut aussi passer par des outils bibliographiques comme Zotero. Donc, la question, c'était comment on allait faire pour nous positionner là-dedans. Voilà. Il existait sur le site web de la société une bibliographie qui était un document statique HTML, donc qui avait été monté avec beaucoup d'enthousiasme, comme ça se fait souvent, par une personne, et qui ensuite, très rapidement, était tombé complètement en oubli parce qu'il faut penser à envoyer à la personne la publication, il faut que la personne ait le temps de mettre la référence, puis elle n'est jamais formatée pareil, donc du coup, c'est du retravail manuel derrière. Donc, cette bibliographie, elle était très à jour en 2001 quand elle a été créée, et puis elle n'était plus du tout. Et donc, de là, on a établi une liste d'exigences pour nous. Bon, il fallait que ce soit adapté au cadre international, ça on était certain. Il fallait que ce soit facile à mettre à jour, parce que là on est dans le projet à coût zéro, on n'allait pas employer quelqu'un pour faire cette bibliographie. Il y a des bibliographies payantes du coup en accès faites par des éditeurs, mais ce n'était pas du tout la route qu'on cherchait à prendre, et de toute façon on n'avait pas les moyens financiers de monter ça. On voulait quelque chose qui soit utilisable à la fois par ceux qui utilisent un logiciel de bibliographie et ceux qui ne le font pas. Et ça, c'était un point très important parce que, comme j'utilise Otero, et c'est quelque chose dont je parle souvent, y compris pour des formations pour des étudiants, c'était pour moi une solution naturelle, mais je suis tout à fait consciente que tout le monde n'utilise pas un logiciel de bibliographie, même si ce serait mieux. Mais donc voilà, il faut que la solution soit utilisable pour tout le monde. Et je voulais que ça puisse servir d'outil de veille. Ça revient à ce que je disais, la Première Guerre mondiale étant un champ très foisonnant de publications. À l'international, je me rends compte que moi, je peux suivre ce qui se publie en France, ce qui se publie en anglais, mais je peux parfaitement lire l'allemand, mais je me rends compte que je ne suis pas du tout ce qui se fait en allemand parce que je ne suis pas au courant. Donc du coup, la solution choisie, en fait, c'était de partir donc, de Zotero, qui est un logiciel de bibliographie. Alors j'espère que la vidéo va passer, qui permet, en fait, là c'est sur une page de revue.org, avec un seul clic, là vous ne voyez pas bien la souris, mais il y a une souris en haut, avec un seul clic, ça permet d'importer les métadonnées d'une référence. Donc ça marche sur les catalogues de bibliothèques, ça marche sur les catalogues de revues, là vous voyez que... Voilà. Donc c'est un moyen très rapide et très efficace de capter des références bibliographiques sur tout un ensemble de sources. Et ce, individuellement, mais aussi de façon collective, donc dans un groupe qu'on partagerait. Alors, je reviendrai sur le détail. Donc, une base de Zotero qui est reliée au site de la Society, qui est en fait un blog WordPress, donc WordPress, et entre les deux, un plugin de WordPress qui s'appelle Zotpress. Donc ça, c'est le technique, plus pour servir d'outil de veille, un fil RSS qui alimente un compte Twitter et une page Facebook. Alors, au niveau pratique... Ça donne ça en fonctionnement pratique. Moi et le petit comité éditorial de 6 personnes qui font ça de façon active, on a nos pratiques de veille personnelle en fonction des champs scientifiques, sous-champs scientifiques de la Première Guerre mondiale sur lesquels on travaille et des langues dans lesquelles on travaille. Donc ça peut être pour moi beaucoup les fils RSS, jusqu'à un certain point les alertes du Google Scholar par exemple, mais également Twitter. Donc là, c'est l'exemple que j'ai retenu. C'était un lien que j'ai vu sur Twitter. Je suis allée voir si dans ce numéro de revue, il y avait quelque chose d'intéressant pour notre bibliographie. J'ai repéré l'article. Je l'ai vu. Je l'ajoute dans la base d'ensemble de notre groupe sur Zotero. Donc la référence, elle y arrive avec toutes ces métadonnées. Je peux y ajouter des tags au besoin. Et donc là, on a la référence. Et ensuite... Ça synchronise avec le serveur de Zotero et ça alimente via le plugin que je mentionnais directement le site web de la société. Et là, c'est là qu'on rejoint le point dont je parlais. Là, c'est utilisable pour des gens qui n'utilisent pas Zotero. Parce que là, on a un affichage qui, pour le commun des mortels, ressemble à une page HTML statique. Alors qu'en fait, non. Là, c'est du dynamique qui est mis à jour à chaque fois qu'on met à jour la base Zotero. Et vous voyez qu'à droite, il y a tout un ensemble de catégories qui sont la reproduction en live de ce qui est ajouté à la base de Zotero. Voilà, donc là, vous voyez la page Australie, parce que c'était l'article que vous avez vu très rapidement, qui, donc, effectivement, est arrivé tout de suite, comme ça, en affichage statique, semble-t-il, sur la page. Voilà, et donc ensuite, il y a tout un système de propagation par fil RSS, puis Twitter et Facebook. Donc là, c'est pour montrer le fil RSS, qui donne accès à l'ensemble des références, qui alimente automatiquement un compte Twitter. Donc à chaque fois qu'une référence est ajoutée, ça sort sur le compte Twitter. Et idem pour la page Facebook. Voilà, donc à chaque fois, renvoie sur cette référence. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement. J'espère que c'est à peu près clair. Et donc, quelques petits constats. Après, donc ça fait 9 mois. Bon, ça fait un peu plus, parce que là, c'est les chiffres de janvier. Mais bon, ça fait pas tout à fait encore un an qu'on fonctionne comme ça. Ça, c'est un point important. J'étais partie avec un stock de départ de référence, en fait, parce que je me suis dit il faut qu'on ait une matière de départ et une structure de départ de la bibliographie. Donc j'ai rentré, moi, à partir de ce que j'avais et de différents ouvrages de référence, 1700 références dans des catégories. Et depuis, on les rajoute au fur et à mesure que de nos veilles personnelles. Donc actuellement, on est, bon, ça a encore augmenté depuis, mais bon, enfin, on a beaucoup augmenté. Là, vous voyez des statistiques. Alors, ce n'est pas forcément le rythme de publication, c'est aussi beaucoup le rythme de la disponibilité des gens qui ajoutent les références. Il se trouve qu'en août, je travaillais ma thèse et puis j'avais le temps d'y penser. Donc, ce qui explique. Mais bon, on voit qu'on est dans un rythme d'à peu près 50 titres d'ajoutés par mois. Et donc ça, c'est la répartition des langues, puisque on s'impose de mettre un tag pour les langues pour être sûr de bien repérer ce qui se passe au niveau des langues. Donc on voit que bon, l'essentiel est en anglais, mais avec des sous-parties en français et en allemand importantes et vouées à croître aussi. Voilà, donc ça, c'est juste les trois liens pour ceux qui seraient intéressés pour voir plus en détail sur le site de la firstworldstudies.org. Donc il y a un article long qui explique tout le fonctionnement de la bibliographie. Zotero.org pour ceux qui voudraient découvrir, et la boîte à outils qui a été mentionnée, où il y a notamment des tutoriels sur Zotero pour ceux qui maintenant ont envie de se lancer là-dedans. Voilà, et j'ai fini.
Merci beaucoup pour ce très joli exemple. Je pense que beaucoup de centres devraient faire la même chose avec les petites communautés dans lesquelles avec lesquelles on travaille.
Est-ce que vous avez des retours d'expérience de la part des membres de la communauté depuis que cet outil fonctionne? Et deuxième question, en moyenne, combien de contributeurs avez-vous pour alimenter cette base?
D'accord. Alors, la réponse facile sur les personnes qui alimentent, alors on est 6 à l'alimenter plus ou moins. Alors, l'essentiel pour l'instant vient de moi, mais les autres finissent par prendre le pli et ça commence à arriver. Il y a aussi un petit nombre de gens qui n'utilisent pas Zotero, donc ils n'alimentent pas directement la base, mais ils m'envoient de temps en temps un fichier Word avec leurs références, et quand j'ai un peu de temps, c'est moi qui les rentre. Donc c'est indirectement, enfin c'est... Donc là, enfin, donc en tout, une petite dizaine de gens à l'alimenter. Et des retours de la communauté, ça se mesure d'un côté sur la page Facebook, on peut avoir des statistiques sur le nombre de clics, sur les liens, et en moyenne, les références ont entre 2 et 5 clics, parce que quelqu'un est allé voir à partir du titre pour aller voir la référence en détail, ce que j'ai trouvé déjà pas mal, et quand même un taux relativement important de repartage ou de like ou de commentaires de gens qui les voient. Idem pour Twitter, où bon, on ne sait pas à chaque fois qu'il y a une publication que quelqu'un le retweet, mais bon, je vois quand même du mouvement et des retours individuels de gens en colloque qui me disent « Ah tiens, j'ai vu la référence parce que tu l'avais publiée ». Donc ça commence à rentrer dans les usages. Et aussi des retours de collègues qui donnent le site web de la Society à des étudiants en disant « Si vous voulez commencer à travailler sur la famille, allez donc voir cette bibliographie-là ». Qui serait en dehors donc, du coup de l'outil Zotero, allez voir sur le site, c'est la bibliographie à jour sur la question.
Oui, en papier, il y avait en 2005 70 pages pour la bibliographie La Grègue sur 1911-1946, et puis il y a Penser à la Grande Guerre d'Antoine Pro, qui sont déjà excellents. Quand vous retenez une adresse, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce que c'est un choix d'affinité? Est-ce que c'est un choix de notoriété? D'autorité, pardon.
Alors, on retient... C'est une question qu'on s'est posée et on a un document cadre pour tous les gens qui alimentent la bibliographie. On prend tout ce qui est travail scientifique publié ou dans une revue ou dans une presse universitaire qui a l'air à peu près sérieuse. Travail scientifique, on n'intègre pas les publications de témoignages, qui sont très nombreux et qu'il faudrait collecter à part, en fait. Et qui, d'ailleurs, ça se fait déjà, le site web du CRID, par exemple, a déjà un répertoire des témoignages. Donc, c'est le choix travail scientifique actuel sur la Première Guerre mondiale, mais pas témoignage.
Oui, bonjour. Donc, le titre de la présentation était « Un portail de service pour la recherche ». En fait, au départ, j'avais plutôt envisagé le point d'interrogation, parce qu'en fait, c'est un petit peu une question qui est posée aujourd'hui. On va présenter un petit peu au-delà et on y reviendra. Donc, je voulais avant tout donner un petit état des lieux, enfin de l'historique du projet ONT dans le supérieur. Je vais quand même vous donner une définition de l'ONT pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout idée de ce que c'est. L'ENT est un portail web personnalisable qui offre des services d'information et des outils aux membres de la communauté. d'une communauté enseignante universitaire en général. Donc, pour revenir sur l'historique, en fait, c'est venu d'un constat un petit peu général, donc il y a une dizaine d'années, qu'il y avait de plus en plus de services numériques, qu'ils étaient très dispersés, peu accessibles, et du coup qu'ils étaient souvent peu connus et peu utilisés. Les universités réfléchissaient un petit peu à ça, surtout côté des DSI, enfin des services informatiques de l'époque. Le ministère, de son côté, a fait, au même moment, avait travaillé également et avait a lancé un appel d'offres concernant la mise en place d'environnements numériques de travail, avec un cadre, enfin un schéma. Il y avait un schéma directeur des environnements de travail qui était, pour finir, quelque chose d'assez. C'était les services minimaux ce qu'il fallait mettre absolument. Par contre, c'était ouvert à l'extension d'autres services si besoin. Quatre projets ont été retenus. Il s'est avéré que, finalement, assez rapidement, 80% des universités se sont tournées vers un projet qui était au départ U-Portal. C'était un projet open source d'origine américaine qui a été francisé par le consortium ISUP. Et donc, bon, 80% des usagers des universités passent par cette technologie. Ce consortium est relativement vivant dans le sens où, en fait, bon, il y a des listes de diffusion, il y a des wikis sur les installations. Alors, c'est quand même assez technique, sur une partie assez technique. Il y a deux e-subdays par an où on peut échanger. Il y a une association maintenant pour pouvoir travailler avec des interlocuteurs d'autres établissements, hors éducation-recherche. Sur l'ENT à l'EHESS, en fait, on a suivi quelques années plus tard. Donc, on avait démarré. L'ENT a ouvert à la rentrée universitaire 2009-2010, faisant suite à 2 ans à peu près de travail sur un certain nombre de problématiques qui étaient des prérequis. Donc, il y a eu principalement. Alors, on a travaillé 2 ans. Là, c'était vraiment les services informatiques et il y avait constitution de groupes de travail, notamment les documentalistes, des enseignants, des étudiants, qui j'oublie, et les services administratifs surtout, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé avec eux également sur les documents. Dans les prérequis, il y avait toute une partie sur l'authentification, qui, vous allez le voir, mais évidemment, était très importante. Et on a beaucoup travaillé sur les notions de profil de la communauté EHESS et sur les groupes qui pouvaient être constitués ou qui étaient déjà constitués. Donc, on a mis en place un annuaire d'établissement, un annuaire LDAP, qui suit les recommandations SUPAN, ce qui a un grand intérêt maintenant, on le voit, avec la fédération d'identité, où en fait, vu que les universités utilisent pratiquement tous des annuaires compatibles SUPAN, on peut faire se servir de la fédération d'identité pour pouvoir se connecter avec nos identifiants EHESS vers d'autres services, d'autres universités en France et à l'étranger. Donc, ce qui nous intéressait au niveau de l'informatique, précisément, c'était une façon de penser la technologie par rapport aux usages et aux usagers. Donc, c'était vraiment intéressant pour les services. Ça nous a permis de partager les évolutions technologiques avec les autres universités. Et bon, donc voilà, sur l'école, là, depuis donc 3 ans, alors on s'aperçoit que ça commence à être vieillissant au bout de 3 ans, finalement. Et donc là, on va parler de la suite. Les services qui ont le plus été utilisés, c'est le Moodle, donc la plateforme d'enseignement en ligne, la messagerie, les ressources documentaires électroniques et j'avais noté d'autres et les documents administratifs. Donc très vite, je vais vous montrer si ça vous rappelle quelque chose l'interface actuelle de l'ENT. Donc on voit pas grand chose, simplement on voit quand même qu'il y a des modules, donc il y a une connexion. Et là, c'est la partie non connectée. Donc, il y a une partie publique qui permet quand même d'avoir de l'information sans connexion.
Quand on se connecte, on arrive actuellement sur cette connexion-là. Et donc, en fait, il y a plein de services qui passent par l'ENT ou pas, qui utilisent cette boîte. Et dès que vous avez cette boîte-là, c'est toujours vos mêmes identifiants. Donc, on a quand même constaté qu'il y avait vraiment dans l'usage quelque chose de beaucoup plus pratique qu'avance pour un certain nombre de services. Là, c'est à l'intérieur de l'ENT. Donc, une fois connecté, on aperçoit en haut, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, des onglets. Donc, les onglets sont personnalisés en fonction du statut de la personne, du profil. Donc, un étudiant va avoir des onglets pas différents. Et donc, on peut en rajouter autant qu'on veut en fonction des besoins et des remontées de besoins. Ça, c'était une des premières maquettes qui avait été faite par onglet. Et donc, on travaillait vraiment de cette façon pour essayer d'organiser les services qui, donc, tous passaient par des connexions identiques. Alors, on arrive au sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce qui est quand même assez rare. En fait, on a rarement présenté l'ENT devant les chercheurs. Là, c'est vrai que la recherche actuellement cherche beaucoup de collaboration hors les murs. L'ENT, contrairement, se propose des services qui sont liés à la personne et à des groupes, mais à l'intérieur de l'institution, même si certains services sont ouverts. Il y a quand même un besoin qu'on voit, pas forcément chez les chercheurs, mais en tous les cas chez les étudiants, les personnels administratifs et peut-être les enseignants, d'un besoin de transmettre et de s'organiser aussi au sein de notre communauté. Donc, pour les chercheurs, dans leur travail quotidien, ils peuvent utiliser les services proposés, puisque c'est les services ordinaires de webmail, les listes de diffusion, les informations sur l'institution. Donc, il y a des documents administratifs et il y a aussi, donc là, plutôt à venir, mais des informations sur la carrière quand la personne est payée par l'établissement, sur les missions en cours. Donc, en fait, un enseignant, un chercheur qui se connecte peut aussi bien aller voir ses paiements de mission, aller lire un article de revue, lire ses mails, éventuellement s'ouvrir un petit peu à d'autres sujets, voir le comité entreprise ou les activités syndicales ou même les menus de la cantine pour ceux qui commencent à avoir très faim. Sur la partie recherche, je pense que les ressources électroniques sont quelque chose qui peut servir et qui sert assez souvent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir l'ENT comme une façon de partager les pratiques. Donc, en fait, c'est complètement ouvert à toute proposition. Si certains services ne font pas partie de l'ENT mais peuvent être utilisés par d'autres personnes, on peut tout à fait rajouter un service à la demande. Donc ça peut être aussi important pour l'accueil des nouveaux, quand quelqu'un qui arrive, chercheur ou pas, en fait il y a un environnement constitué avec un historique d'un certain nombre d'informations. Par exemple, les PVDCS, mais enfin là, c'est plus Brigitte. Qui permettent quand même de revenir un petit peu sur ce qu'est l'institution, ce qu'est la recherche, ce que sont les centres ou les personnels qui y travaillent. Pour les chercheurs invités également, ou pour tout. Voilà, donc ce qu'on propose, nous, c'est que les chercheurs utilisent ou découvrent les outils proposés et en réclament d'autres éventuellement. J'avais noté, en fait, c'était aussi de pouvoir profiter de la position en principe légitime de la DSI pour pouvoir avancer certains services. En fait, je dis bien en principe, j'ai plusieurs collègues ici, c'est en principe légitime, mais c'est pas toujours évident non plus. Mais bon, tout peut se servir, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, donc j'en profite aussi pour faire un appel pour la journée du 18 avril. Donc l'après-midi, à partir de 13h30, il y aura un café pour démarrer. Et vraiment, c'est pas vraiment une réunion, c'est une discussion pour échanger, recevoir les critiques et les besoins autour de l'ENT. Donc c'est en salle 3 du France. Et pour ceux qui ne pourront pas venir, nous avons indiqué une adresse qui est lue par la DSI pour pouvoir alimenter aussi sur ce sujet. Voilà.
Bon, est-ce qu'il y a des questions avant le déjeuner?
Tout le monde a faim.
Non. Oui.
J'ai vu le principe de consultation,
Il y a eu une enquête, mais principalement sur la partie enseignement, plateforme d'enseignement. Donc il y a eu des résultats. Et là, on a dit que c'était un peu vieillissant au bout de 3 ans. Et donc en fait, on a un ENT 2013, là, c'est ça qui sera discuté à cette réunion. Et pour cette réunion-là, il y aura on va faire vraiment le constat de ce qu'on a quand même vu, c'est qu'on avait mis on s'était beaucoup investi sur la première année de mise en place. Les statistiques ne descendent pas. Donc en fait, sans animation, ça ne descend pas. Ça devrait monter, donc c'est pas forcément. Mais en fait, il y a un besoin quand même naturel qui fait que le NT est utilisé au quotidien, même sans assez d'animation autour.